Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Pour moi, la crise prend plein d'aspects, hein, psychiques, physiques, relationnels, etc. Elle est là pour nous dire, mais non, en fait, tu n'es pas que ça. Tu n'es pas qu'un objet à fabriquer des choses. Plus tu découvres tôt ce pourquoi tu es là, plus tu vas pouvoir donner au monde ce pourquoi tu es là, et donc tu vas contribuer, en fait, à l'évolution.
L'attachement est un besoin primaire. On l'évite parfois. Il nous rend anxieux d'autres fois et heureux le plus souvent. Quel que soit son état, l'attachement est éminemment rattaché à des faits psychologiques et il est vital. Depuis l'épisode que l'on a enregistré avec Stéphanie Briand sur les blessures relationnelles, j'ai eu envie de creuser le sujet et j'ai découvert Gwenaëlle Percio. Une fois de plus, j'ai pris une claque en comprenant le lien que pouvaient avoir les relations sur nos vies. Plus encore, Gwenaëlle, elle, insiste sur la puissance de nos pensées qui ont un impact direct sur les situations que l'on rencontre. Tout trouve son sens, et apprendre à canaliser nos pensées, c'est aussi se permettre de grandir à travers les rencontres qui se présentent à nous. Comment alors agir sur ces fameuses pensées? Pourquoi est-ce que l'on s'attache et qu'est-ce qui constitue un attachement? Dans cet épisode avec Gwenaëlle, on parle d'attachement, de sens et d'émotion. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de rencontres qui grandissent.
Génial, on y va?
Allez, c'est parti.
Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Victoria.
Je suis ravie de te tendre mon micro jeune. On est chez Erol, ta maison d'édition. Mm-hmm. Tu es psychologue, clinicienne et psychothérapeute et tu es aussi l'auteur de 3 livres donc publiés chez Erol. Et ton dernier, publié en février dernier, s'appelle « Traverser la perte de sens ». On va parler de cette fameuse quête de sens, mais comme pour chacun de mes invités, Gwenaëlle, on va commencer par revenir à ton enfance. Très jeune, tu étais déjà attirée par le monde subtil, par ses mystères et ses richesses. Quelle petite fille tu étais?
C'est bien, ça commence directement dans les profondeurs. Ça me plaît beaucoup. Je crois que j'étais une petite fille seule, en fait. J'ai envie de commencer par ça. Hein. On est un peu aussi direct à des endroits délicats, mais pour plein de raisons liées à la personnalité de mes parents, le contexte, je crois que je me suis vite construit du soutien pour vivre cette solitude le moins mal possible, et notamment les livres. Moi, c'est les livres très petites qui m'ont beaucoup aidée.
C'était des refuges.
Ah ouais, complètement. Et surtout les histoires de vie. Très jeune, jeune ado, je lisais déjà des biographies à un âge où d'habitude tu lis pas ça, quoi.
Il y a une figure, une biographie qui t'a particulièrement marquée, dans laquelle tu t'es reconnue? Parfois, il y a des Simone Veil.
Non, ça va être super bateau, mais c'est Anne Frank, en fait. Mmh. Je crois que ça doit être un des premiers livres de biographie que j'ai lu. Et l'histoire de cet enfant, à un âge où je ne sais pas très éloigné, tu vois, en termes d'années, avec toute l'adversité. Et puis, j'ai découvert aussi plus tard que toute cette période de l'histoire de l'humanité, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et donc, oui, le destin d'Anne Frank, par exemple, tu vois, quand j'étais toute petite, jeune ado, je crois, peut-être 11, 12 ans. Eh bien, je me suis dit, waouh, il y a une profondeur à la vie. Alors que jusque-là, je pense que j'étais dans un quotidien un peu, tu vois, banal et aussi assez vide. Parce que beaucoup de solitude. Même si j'avais 2 frères, des parents qui n'avaient pas divorcé. Mais tu sais, on peut sentir très seul alors qu'il y a plein de gens autour. Hein.
En grandissant, tu as appris à te sentir un peu moins seul. La période lycée notamment, études supérieures, en école de commerce.
Le lycée, ça a été compliqué parce que, en fait, j'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans, donc en plein milieu du lycée. Donc, c'est un des souvenirs assez contrastés, tu vois, avec effectivement les premiers moments de bande de copains, premiers amours et en même temps ce grand drame. Non, moi, je pense que j'ai commencé vraiment à me sentir moins seule et à créer des liens. C'est ensuite, en fait, quand je suis rentrée en prépa. En plus, j'étais en pension, enfin en internat, on disait. Et là, d'avoir les copains toute la semaine, même si on bossait beaucoup, hein, j'ai fait une prépa à HEC, donc ça t'a fait pas mal. Mais là, j'ai trouvé le groupe, la bande, l'amitié. Et là, ça commence à être moins difficile par rapport à la solitude.
Qu'est-ce que tu cherchais pour ton avenir en faisant cette prépa à HEC ? Qu'est-ce que tu visais ? Est-ce que tu avais des objectifs ?
Ah, c'était très clair, c'était plaire à papa. Ouais. Mon père était ingénieur commercial. Et il valorisait beaucoup la réussite financière, mais aussi entrepreneuriale. Et moi, je voulais plaire à mon père, hein, qui était un homme qui je pense, avait du mal à regarder sa fille pour l'individu que j'étais. Donc, je pense qu'il y avait ça, la reconnaissance. Je l'ai compris bien longtemps après, mais clairement, c'était ça. Et puis, il y avait aussi l'idée de partir, tu vois, de pouvoir avoir un métier qui me permette... de voyager, de faire des expériences. D'ailleurs, j'ai choisi après une école de commerce qui était quand même à 500 bornes de chez moi. Mmh. Exprès. J'avais rien présenté dans la ville où j'étais, c'est-à-dire à Lille. Et je suis partie loin. Et après, je suis même partie à l'étranger. Il y avait ça aussi.
Et après, tu as débuté une carrière d'une dizaine d'années dans le marketing, spécifiquement dans l'agroalimentaire. À 20 ans, comment est-ce que tu te projetais dans la vie des grands après avoir terminé tes études ?
Je suis partie pendant mes années d'études 6 mois aux États-Unis et 1 an à Prague, en République tchèque. Donc déjà, c'était assez atypique. J'ai pas fait le modèle, tu vois, les 3 ans d'école de commerce et après on y va. Moi, très tôt, en fait, j'avais, je pense, une maturité liée à ce que j'avais vécu, peut-être un peu plus présente. Et j'avais vraiment envie de voir le monde et aussi de réussir. Par exemple, l'année que j'ai passée à Prague, c'était une année césure, hein, comme on disait, donc où j'ai travaillé. Hein, j'avais à peine 20 ans, je bossais comme salarié, quoi. Et il y avait l'idée aussi de me donner le plus de chances pour vraiment montrer qui j'étais, réussir. Y
avait la réussite, c'était quoi pour toi à cet âge-là ?
Eh bien, c'était... Il y avait un aspect financier, hein, je ne peux pas le nier, je pense, parce que moi, dans ma famille, il y avait beaucoup ça, hein, le fait de si tu gagnes de l'argent, t'es quelqu'un, quoi. Donc ça, je pense que j'étais très empreinte de ça. Et il y avait aussi explorer, découvrir, et j'ai choisi le marketing aussi parce que c'était quand même, tu vois, contrairement à la finance, c'était quand même un peu, peut-être toujours un peu la même chose. Dans le marketing, tu travailles avec des agences de pub, des agences de packaging.
Oui, il y a une part de créativité qui
crée des produits avec des ingénieurs. Enfin, il y avait une multiplicité. Ça me plaisait beaucoup, en fait. Et très tôt, même dans mes études, j'étais déjà à moitié dans le monde du travail, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé. Toutes mes études, j'avais des petits jobs et tout ça.
Et tu t'imaginais continuer, faire défiler les années dans cette société de marketing ?
Je pense que j'avais, comme pas mal d'étudiants en école de commerce, tu sais, le formatage du plan de carrière. À l'époque, j'étais quand même complètement là-dedans. Tu vois, j'allais être assistant chef de produit, puis chef de produit, puis après chef de groupe, et tatata. Donc oui, j'imaginais tout ça. Et c'est ce qui aurait pu se produire.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a déformaté ce schéma-là 10 ans après ? Raconte-nous tout.
Eh bien, en fait, la vie est vraiment bien faite parce que la toute fin de cette première carrière, c'est un licenciement. Hein, oui. Ce qui était parfait parce que j'avais déjà presque mon diplôme de psychologue en poche, donc j'ai pu switcher. Mais si je reviens un petit peu en arrière, en fait, donc j'ai fini mon école de commerce, j'ai trouvé un premier poste à Paris, dans une grosse boîte, bien payée, enfin tout roulé. Et j'ai fait comme ça 3 boîtes. Et en fait, au bout de 3-4 ans, je crois, j'ai commencé à douter de ce métier. Et ce qui m'a fait douter, en fait, c'est d'aller en thérapie moi-même. C'est d'aller voir une psy, parce que j'avais des soucis avec l'alimentation à l'époque. Hein. J'étais assez hyperphagique, boulimique, enfin bref, j'avais des problèmes de régulation émotionnelle. Donc j'étais allée voir ma première psy. Et je me souviendrai tout le temps du premier rendez-vous où je suis sortie et je me suis dit « Waouh, c'est quoi ce métier ?» Parce qu'évidemment, dans ma famille, on ne parlait pas de psychologie. Donc déjà, ça a eu une petite graine. Et puis mes années de thérapie m'ont amenée à découvrir ça, en fait, ce monde des émotions, de la psychologie et ce métier. Je suis d'abord allée me former à la PNL, qui est une technique quelque part intermédiaire entre l'entreprise et la psychologie. Mmh. Et là, j'ai rencontré en fait des psys, des thérapeutes à qui j'ai pu parler comme ça. Et je me suis dit, mais leur métier est formidable. Et c'est ainsi que j'ai repris des études alors que je travaille encore. Hein.
Donc, tu avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 28 ans.
Ok.
Et puis la PNL, c'était même avant. Hein, donc j'ai vraiment commencé à changer vers 26 ans, on va dire.
Pour celles et ceux qui nous écoutent, petit aparté, on a fait un épisode consacré à la PNL avec Paul Pironet. Il y a déjà plusieurs mois de ça. Donc je remettrai le lien dans la description. Voilà.
Et la PNL, ça m'a ouvert à, tu vois, à ce monde-là. Et un jour, je me souviens, je me suis dit, mais en fait, si tu veux changer de métier, il va falloir aller à la fac. Et à l'époque, j'avais pas d'enfant, j'y vais à Paris. Donc, je me suis inscrite à la fac à distance, à Paris 8. Avec quand même un objectif d'aller jusqu'au bout, mais qui était pas non plus... Enfin, j'étais assez cool avec moi-même, parce que je savais que j'allais avoir de nombreuses années. Et au final, j'ai quand même mis 7 ans, hein.
Où est-ce que tu as trouvé le courage pour oser changer de vie à 28 ans, là où tout le monde commence vraiment à se ranger, à se caser?
Ouais. Bah, c'était pas encore vraiment changer de vie parce que je démarrais les études.
Donc oui, mais
c'était...
ça faisait quand même déjà 10 ans que tu étais dans les rails.
Ouais. Je crois que c'est vraiment la découverte de ce métier de psychologue, tu vois. Je me suis dit, mais c'est formidable ça, d'écouter les gens, de les aider par cette écoute, par la présence. Et puis je me suis rendu compte aussi que finalement, très tôt dans ma vie, je me souviens très bien, notamment ça a commencé en école de commerce, où j'écoutais les gens déjà. J'étais celle de la bande vers qui on venait, à qui on racontait les malheurs, les problèmes. J'étais naturellement dans cette position-là et j'adorais faire ça.
Comment on se protège personnellement quand les autres nous racontent leurs propres problèmes pour ne pas les prendre trop à cœur et à soi?
Ça, c'est une question qu'on pose souvent aux thérapeutes, donc on m'a souvent posé, qui est quand à l'intérieur de toi, tu as pu... nettoyer, on va dire, les plus grosses couches, hein, parce que c'est infini ce travail hein, d'introspection et d'avancer sur soi. Mais quand tu as enlevé les premières couches, en fait, il y a quelque chose qui est disponible pour l'autre. Même si ce qu'il te dit est vraiment dur, qui des fois même est assez effrayant. Mais si tu as pu dégager déjà des premières couches noires, on va dire les tiennes, eh bien l'espace est là et tu fais circuler en fait la parole et ça ne te touche pas tant.
Donc, il faut d'abord être guéri soi-même.
On n'est jamais complètement guéri, oui. Mais on va dire qu'effectivement, il faut. C'est comme ça aide beaucoup d'avoir guéri certaines choses. C'est pour ça que d'ailleurs, les jeunes psychos qui démarrent, c'est plus difficile pour eux. C'est normal.
Mm-hmm. Toi, tu as beaucoup travaillé sur les blessures relationnelles et notamment celles de l'enfance. Qu'est-ce qui constitue un attachement? Pourquoi on s'attache aux gens, aux choses?
On s'attache aux gens parce qu'on est humain, tout simplement. Et en fait, on est humain, on est surtout derrière un animal, hein, un animal social, un animal grégaire. Et on sait, hein, ça fait quand même bien longtemps qu'on le sait, que sans l'autre, en fait, l'être humain ne survit pas. Au même titre qu'il y a peu d'espèces dans le monde animal qui peuvent survivre seules. On est des animaux de lien. Alors, on peut peut-être survivre dans un sens vraiment basique, mais qu'est-ce qu'il en est aussi de la survie psychique? Et puis, on n'est pas juste là pour survivre, on est là pour vivre. Et l'autre auquel on s'attache, naturellement, d'abord les parents pour l'enfant, et puis après les amis, les premiers amours, etc., sont là pour nous soutenir, hein, ça c'est vraiment la fonction numéro un de l'attachement, dans les moments de stress, et aussi nous aider à devenir qui on est. C'est par la relation aussi aux autres, et entre autres par les frictions, les tensions, hein, c'est pas que le soutien, c'est aussi les moments où ça va pas, qu'on va être challengé sur nos, on pourrait dire nos défauts, hein, mais de manière plus subtile, les trucs qu'on traîne encore, les répétitions de schémas, de comportements. Et dans la relation à l'autre, du coup, on est amené à bouger, ou pas. Y a des gens qui vont pas tant bouger, même s'ils sont bousculés, c'est les grands évitants notamment, mais la plupart d'entre nous, dans la relation, notamment la relation amoureuse, la relation aussi aux enfants est importante, et l'amitié aussi, eh bien on va avancer sur son chemin de développement de soi, hein, d'individuation.
Donc finalement, l'attachement à l'autre est essentiel pour sa construction personnelle. Là où on peut dire que, oh non, il faut pas s'attacher, attention, c'est dangereux.
Oui, l'attachement est un besoin primaire. On dit aussi qu'on est pré-câblé pour s'attacher aux autres. C'est-à-dire qu'il y a en nous une pulsion qui est à nouveau très animale, de s'attacher à un autre, donc d'abord les parents, et puis après les autres, pour devenir qui on est. Seul, on ne peut pas pleinement s'expanser, en fait, s'individuer. Hein. Il y a Jean-Paul Sartre qui dit, qui n'est pas psychologue, mais moi j'aime bien la philosophie aussi, il disait « Autrui est le médiateur essentiel entre soi et soi-même ». C'est-à-dire que pour se rencontrer soi, hein, faire ce chemin de soi à soi-même, hein, dans cette expression, eh bien, il faut qu'il y ait l'autre. Sinon, c'est que partiel.
Il y a Jung aussi qui disait « Le but de l'existence, c'est d'habiter le moi et cheminer vers le soi. » C'est quoi cheminer vers soi ? Toi, comment tu as cheminé vers toi ?
Ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup Jung. Hein. Pour moi, c'est un de mes plus grands mentors de pensée. Et Jung, il a compris bien plus tôt que bien d'autres qu'on n'est pas là que pour produire, hein, se reproduire et se divertir avec Netflix, quoi. Hein, on est là pour beaucoup plus que ça. Et dans cette phrase, habiter le moi et cheminer vers le soi, Jung, il nous dit que c'est les deux grandes parties de l'existence qui sont résumées dans cette phrase, en fait. Hein, que la première partie, c'est habiter le moi dans le sens de construire sa personnalité, sa structure psychique, et ça passe par le concret. Hein, ça passe par... déjà, il y a beaucoup de choses au niveau juste organique, hein, le développement du cerveau, évidemment, hein, de nos capacités. Et après, il y a ce qu'on va faire, hein, donc des études, un métier, fonder une famille, etc. Et ça, ça va nous montrer qu'on a une prise sur la matière. Mais bien sûr qu'on n'est pas là que pour ça. Et là, souvent arrive la crise existentielle. Le plus souvent, c'est entre 35 et 50 ans, on va dire. Mais parfois, ça arrive plus tôt et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et cette crise de milieu de vie, elle a pour fonction de nous faire sentir que ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est super. Hein, ça, c'est remarquable à plein d'endroits, surtout pour des gens qui viennent de loin au niveau psychique. Mais qu'on est appelé à être beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'il appelle cheminer vers le soi. Et le soi, selon Jung, on dit le self en anglais, c'est la partie la plus sage de nous, la plus haute aussi en vibration. Hein. Il y a une dimension spirituelle là-dedans, mais même sans aller jusqu'à la spiritualité, c'est être qui on est, ce pourquoi on est là, mais le pourquoi en deux mots. Hein, vraiment, moi j'aime bien parler du talent, hein, son talent singulier, particulier, qui fait que si on n'était pas là, on manquerait au monde.
Comment on le trouve, ce talent ?
Ah, alors, bah, y a des gens qui le trouvent très tôt, très jeune, c'est assez rare, mais ça peut arriver, hein, des gens qui... Déjà, même parfois, enfants, ils savent que voilà, ils vont faire ci ou faire ça. Et c'est, ils vibrent de ça. Il y a quand même des trajectoires incroyables de ça. Mais la plupart d'entre nous, on va le découvrir par l'épreuve. Hein. La crise de milieu de vie, par exemple, souvent, c'est une dépression. Hein. La dépression du quarantenaire, elle est bien connue chez les médecins généralistes, par exemple. Mais ça peut être aussi une maladie. Ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des problèmes relationnels, en tout cas des choses qui sont compliquées et qui nous freinent en fait dans ce moi qui pourrait quelque part, on pourrait tout le temps construire, produire, par exemple gagner de l'argent, faire, quelque part pourquoi s'arrêter, hein ? Surtout quand on est dans une société qui valorise plutôt ça qu'autre chose. Eh bien, pour moi, la crise, qui peut prendre plein d'aspects, hein, psychique, physique, relationnel, etc., elle est là pour nous dire, mais non, en fait, tu n'es pas que ça. Tu n'es pas qu'un objet à fabriquer des choses. Hein. Et elle nous arrête. La dépression caractérisée, c'est vraiment un arrêt du corps et de l'esprit. Hein. C'est des gens qui, un matin, ils peuvent plus aller bosser. Parfois, ils peuvent même plus penser. Comme tout est au ralenti. Et quelle est la fonction de ça ? Ben de nous faire nous arrêter vraiment et de se poser des questions de « mais en fait, je veux faire quoi de la deuxième partie de ma vie ?»
D'où le titre de ton dernier livre, « Traverser la perte de sens ». Et tu remercies d'ailleurs celles et ceux qui t'ont enseigné la force du courage et la puissance du sens au milieu du non-sens. Où est-ce qu'on trouve la force du courage ?
Il y a plusieurs sources en fait au courage pour moi. Mais elles ont toutes en commun le cœur, puisque courage, ça vient du mot cœur. Hein. C'est, courage, c'est aussi sentir ce qui est juste et aller vers ce qui est juste. Et comment on sent ce qui est juste ? Ben moi, je crois qu'on le sent avec le cœur. Et donc, on va sentir un appel, en fait. Et cet appel, il va nous donner ce courage dont on a besoin pour traverser les épreuves. Et concrètement, c'est un appel qui peut être soit vers les autres... Par exemple, avoir envie de... Enfin, c'est plus qu'une envie, c'est quelque chose d'une évidence de fonder une famille, par exemple. Et de mettre son énergie, toute sa ferveur dans d'une famille qui serait différente de celle que j'ai eue, par exemple. Ça, c'est
intuitif
vrai.
Aussi.
Oui, il y a quelque chose... C'est pas très mentalisé, hein, tout ça. C'est là où, d'ailleurs, souvent, c'est le plus juste. C'est qu'on sent. Des gens qui vont faire plusieurs enfants. Je pense à une patiente, par exemple, qui a beaucoup d'enfants, au-delà de la moyenne. Et d'un point de vue rationnel, ça peut paraître étrange, ça fait beaucoup de soucis. Mais en même temps, si elle n'avait pas ses enfants, je ne suis même pas sûre qu'elle serait encore en vie, parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles. Et en étant mère, elle, y a une force de vie qui se déploie et qui la pousse à trouver du sens au milieu du non-sens. Non sens de sa vie passée, mais aussi parfois de sa vie présente. Donc, ce qui va nous aider à trouver du sens au milieu du non-sens, c'est cet élan vers les autres. Ça peut être les élans aussi vers soi, dans le sens du soi avec un grand S de Jung, c'est-à-dire pourquoi je suis là? C'est quoi mon talent? Qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas? Donc, ça peut être peindre, par exemple, pour un artiste. Ça peut être accompagner les autres pour un thérapeute. Ça peut être construire des objets très utiles pour les autres si t'es plutôt ingénieur, etc. Donc ça, c'est le soi dans le sens du talent, vraiment, qui va nous permettre, par exemple, de mettre du sens. Et l'art, par exemple, aide beaucoup de personnes qui sont parfois dans des grandes pertes de sens avec des histoires assez difficile, par exemple, on le sait, les artistes, en général, ils sont pas artistes pour rien. Et puis, la dernière source pour moi de courage, c'est le sacré. C'est d'aller aussi au-delà de la matière. Et pour moi, le sacré, c'est le divin, bien sûr, mais c'est aussi le monde animal, végétal, la nature, la terre. Retrouver ça.
Qui est beaucoup plus subtil et pas rationnel.
Oui. Pas rationnel et surtout tellement pas valorisé dans notre société. C'est aussi tout un chemin, parfois, d'aller reconnecter à ça. Et parfois, c'est aussi les épreuves qui nous remettent sur ce chemin-là du sacré.
Tu parles beaucoup de reconnexion à son cœur, mais tu mets aussi l'accent sur les émotions qu'on fuit la plupart du temps. Comment on apprend à les accueillir, ces émotions?
On apprend à les accueillir avec un autre. Par définition, l'être humain ne peut pas, ou très difficilement, ou mal, quoi, ça sera dysfonctionnement, accueillir ses émotions seules. On n'est juste pas fait pour ça, en fait. Le cerveau de l'humain, donc de l'enfant, se construit sur ses capacités de régulation émotionnelle parce qu'il y a un autre en face qui va lui enseigner le langage des émotions. C'est la maman qui se penche sur son petit, qui est en train de pleurer, et qui a le ton et la mimique adaptée pour lui dire « Oh, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air pas content ?» Et par ces multiples interactions qui démarrent donc dès la naissance, et qui vont se poursuivre toute l'enfance et l'adolescence, eh bien, l'être humain, il apprend qu'il a des émotions, c'est normal, elles ont des noms, tristesse, colère, etc., parce qu'il entend un autre, un parent en l'occurrence, mettre des mots, et surtout qu'on lui apprend à les réguler. Viens faire un câlin avec maman, et puis par la régulation dyadique, c'est-à-dire avec un autre, peu à peu on apprend à le faire soi-même. Mais la régulation des émotions, n'en déplaise aux évitants, ça ne peut se faire à nouveau que par la médiation de l'autre. C'est parce qu'à un moment, on m'a aidé à réguler mes émotions en étant là, en étant présent, au niveau charnel aussi, parce qu'un enfant, c'est avant tout le câlin, le regard dont il a besoin, bien plus que les mots. Et c'est grâce à ça que peu à peu, on va internaliser cette capacité, pour arriver, évidemment, à un moment, arriver à le faire seul. Et encore, quand on vit quelque chose de très dur dans la vie, quel que soit son âge, on a besoin d'un autre pour nous réguler.
Mais on a aussi besoin de ces moments de solitude.
On a besoin des deux une fois qu'on est adulte, en fait. Un adulte qui est plutôt sécure dans son attachement, il sera capable de...
Petit aparté sur les types d'attachement, du coup, parce que tu, à plusieurs reprises, tu as parlé des anxieux, des évitants. On a fait tout un épisode avec Stéphanie Briand sur les types d'attachement, donc on ne va pas revenir dans les détails. Mais il y a donc 4 types d'attachement, 1 sécure et 3 insécures, parmi lesquels anxieux, évitants, désorganisés. Voilà. Juste petit aparté.
Ouais, c'est très intéressant. Allez écouter sur les styles d'attachement, c'est des clés importantes. Donc un adulte plutôt sécure, c'est-à-dire qui a une vie non pas parfaite, puisque ça n'existe pas, mais plutôt, on va dire, assez fluide au niveau de sa régulation émotionnelle, il sera capable de réguler par lui-même la majorité peut-être des adversités, mais il sera surtout capable, si c'est trop difficile, d'aller demander de l'aide et de la recevoir. Ce qui n'est pas du tout évident quand on n'a pas appris ça avec un autre. Où on peut soit être très très loin de ses émotions, soit être complètement collé et être submergé par elles.
En quoi les blessures relationnelles dues à notre passé, elles peuvent avoir un impact sur notre quotidien ?
Les blessures relationnelles du passé, elles s'inscrivent surtout dans le corps, hein, dans les cellules.
Le corps a une mémoire.
Le corps a une mémoire assez incroyable. Hein. Quand je dis incroyable, c'est qu'on sait maintenant que ce qu'on a vécu quand on était dans le ventre de notre mère, hein, est encore dans nos cellules 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans après. Hein. Donc la mémoire du corps, elle est incroyable. Elle inclut même le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut porter en nous des choses difficiles qui ont été vécues par nos parents, nos aïeux. Donc c'est pour dire. Et ça, c'est aujourd'hui de plus en plus connu. Donc, étant donné que les blessures s'inscrivent dans notre corps, elles vont ressortir parfois malgré nous, hein, malgré notamment notre mental. On peut par exemple avoir compris que parce qu'on a vécu tel événement dans l'enfance, eh bien on est sensible sur telle ou telle chose. On peut le comprendre avec la tête, par exemple quand on a fait une psychanalyse ou des choses comme ça un petit peu verbales, et être quand même surpris à un moment d'être déstabilisé, voire même parfois submergé par un événement qui fait remonter à notre conscient, surtout à l'inconscient, des choses qu'on pensait avoir réglées parce qu'on pensait avoir mis des mots dessus. Et c'est en ça que les blessures relationnelles peuvent remonter, parce que c'est avant tout par le biais du corps et de la mémoire cellulaire qu'elles remontent.
C'est pour ça qu'on rencontre certaines personnes à certains moments précis de notre vie.
Oui, absolument. Pareil. L'autre, sans l'autre, on grandit pas, hein, et on grandit aussi par les rencontres, hein. Alors on pense aux belles rencontres, aux rencontres amoureuses, par exemple, qui vont nous permettre, par exemple, de se sentir aimé, surtout quand on a vécu plutôt des blessures attachantes. Mais il y a aussi les rencontres qui, à l'inverse, vont un petit peu frotter, être difficiles. Ça peut être, je sais pas, un patron, une camarade de promo, ou même notre boulanger qu'on voit tous les matins qui nous fait un effet bizarre à chaque fois. Et ce qui est important, en fait, quand on vit des tensions comme ça, des frictions, c'est de, en tout cas, si elles sont suffisamment fortes pour nous interpeller, c'est de s'arrêter dessus et d'essayer de réfléchir. C'est quoi le sens de cette tension que je vis toujours avec cette personne, ou là, cet homme-là, je sais pas, je me sens toujours un peu bizarre quand je le vois. Qu'est-ce qui remonte, en fait?
Donc, encore une fois, accepter ses émotions et pas les fuir.
C'est ça, accepter les émotions. Il va y avoir un peu aussi de cognitif là-dedans, parce qu'à un moment, c'est bien de comprendre, et puis nous, les humains, on aime bien quand même comprendre, mais la porte majeure, c'est effectivement l'émotion. Qu'est-ce qui est activé quand je suis avec cette personne? Alors, quand c'est positif, bon, bah, c'est juste super, on n'a même pas à se poser la question. Mais quand c'est difficile, là, ça devient quand même vachement intéressant, enseignant.
Tu parles aussi souvent de plasticité cérébrale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Donc, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu grâce aux neurosciences, qui nous dit que à l'intérieur de notre cerveau, on a les neurones, mais on a surtout les connexions synaptiques, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce qui était très important pour tout, en fait, hein, notre fonctionnement quotidien, nos apprentissages, le changement aussi, hein, qu'on veut pas pour soi, eh bien, ce qui se joue beaucoup, c'est ces fameuses connexions. Et on a découvert que jusqu'à la fin de notre vie, on fait des connexions synaptiques, alors que par contre, on va plutôt perdre des neurones. Mais on peut jusqu'à la fin continuer par contre à produire des connexions entre les neurones. Et c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça veut dire que le cerveau est plastique dans le sens qu'il peut à tout moment, hein, vraiment reconstruire des choses qui avaient été abîmées ou construire. Donc par exemple, par rapport aux blessures relationnelles et à l'attachement, si on a eu un attachement vraiment douloureux, hein, on dit insécure, eh bien c'est absolument pas une fatalité. Puisque grâce à cette plasticité cérébrale, on peut remplacer, alors peu à peu, hein, bien sûr, souvent ça prend du temps, des schémas insécures par des schémas sécures, et en fait, ça se matérialise notamment par des connexions synaptiques. Et c'est ça la plasticité.
Ok. Et comment on les déplace ? Est-ce que c'est par les pensées ? Est-ce que c'est par nos actions au quotidien ?
En fait, il y a trois niveaux. Il y a les pensées, les émotions et les actions. Et okay. on agit sur les trois niveaux.
D'accord.
C'est-à-dire que tu vois les pensées, tu peux travailler sur tes pensées. Par exemple, si à chaque fois, par exemple, tu fais une maladresse, tu penses, au pire, tu le dis, mais quel imbécile je suis, Ça, par exemple, si tous les jours, hein, tu te répètes « Ah, mais quel imbécile je suis, ah, mais il n'y a que moi pour faire ça, etc. Mmh. » Tu crées des connexions synaptiques qui ne sont pas terribles. Hein. C'est un peu comme quand tu fais du ski de fond. Tu crées un peu, tu vois, des chemins comme ça, hein, qui sont plus profonds si tu te dis ça tous les jours. Et à un moment, tu peux décider. Moi, j'ai décidé un jour ça. J'ai dit, j'étais du genre à m'auto-flageller comme ça beaucoup.
Tu t'es dit stop.
Et un jour, j'ai compris ça et j'ai dit stop, ouais. J'ai dit, Gwen, tu vas arrêter de te traiter d'imbécile. Et alors, ça vient évidemment pas comme ça, mais c'est dans une vigilance. Et dès que je m'entendais penser ça, ou pire le dire, je me reprenais. Et avec mes enfants, d'ailleurs, je fais pareil. Mmh. Quand je les entends se dire, ah, mais quel con. Non, tu ne dis pas ça. Ce que tu as fait, c'est peut-être une connerie, mais tu n'es pas con pour autant.
Parce que c'est une information que tu envoies à ton cerveau.
Exactement. Hein, et de dire, ok, bah oui, bon, j'ai fait une bêtise. Et je suis pas débile pour autant. Mmh. Donc ça, c'est les pensées. Tu peux vraiment agir là-dessus par la volonté.
Après, il y a les émotions. Non ?
Après, il y a les émotions. Donc c'est tout le travail de régulation émotionnelle. Arriver d'abord à sentir ses émotions, à les accueillir le mieux possible. Après, il y a des techniques qu'on peut apprendre. Mmh. C'est pas ça qui manque aujourd'hui.
Ouais, il y en a plein.
La respiration, plein de choses. Pour arriver à être le mieux possible dans une sorte de fenêtre de tolérance. Et puis, il y a les actions. Mmh. L'action a un pouvoir sur le réel important. Hein. Parce que par exemple, si je reprends l'idée de la maladresse, se dire je suis une imbécile, c'est déjà pas terrible. Le dire à haute voix, c'est encore pire. Et puis après, derrière, par exemple, penser tellement et dire tellement qu'on est une imbécile que du coup, je vais même pas aller par exemple à cet entretien d'embauche où pourtant j'ai des chances d'avoir le poste. Par exemple, ça, c'est me saboter. Donc c'est une action négative qui va toujours dans le sens du chemin de ce qu'ils te font là, dont le programme hein, est clair, c'est je suis une imbécile et je ne vaux rien. Donc c'est important de travailler à tous les niveaux et les actions, bah, par exemple quand on travaille avec quelqu'un qui a du mal à concrétiser des choses, et ben, on va voir quel est le premier petit pas qu'il peut faire, puis le deuxième, puis le troisième et ainsi de suite.
Et ce qui est très intéressant, c'est que de par cette plasticité cérébrale, en fait on rationalise aussi quelque part et on met de la science derrière quelque chose qui peut nous paraître très subtil et très perché, quoi, où on dit non, mais les pensées, ça n'a pas du tout d'impact sur la réalité matérielle, et en fait si.
Ah oui, tellement. Et puis alors, moi, tu parles de la plasticité cérébrale, mais la physique quantique maintenant, elle prouve ça tous les jours un peu plus, hein. La force de ces choses, comme tu dis, peut-être
plus
subtiles, invisibles, mais tellement réelles.
Oui. Peuvent s'expliquer aujourd'hui de plus en plus.
Absolument. Mmh.
Comment toi est-ce que tu vois l'existence, avec un grand E ? Vaste question, mais comme tu aimes beaucoup la philosophie et que tu as plein de références, je te laisse philosopher.
L'existence, je le relirai tout de suite avec le mot être, hein, qui commence par la même lettre. C'est être qui on est au niveau même vibratoire, dans le sens, c'est quoi ma vibration, tu vois, si je suis plutôt artiste, bah c'est une énergie particulière en moi, si je suis plutôt un peu, c'est une autre, et d'arriver à sentir ça, à le découvrir, et de pouvoir après le manifester dans la matière, pour moi c'est ça le défi de l'existence. Et Jung, que je vais encore citer, parce que je pourrais citer Jung toute la journée, il écrivait « Deviens qui tu es depuis toujours ». Et j'adore cette phrase. Et surtout le « depuis toujours ». Parce que « deviens qui tu es », déjà on entend comment c'est beaucoup plus fort que le « connais-toi toi-même » de Socrate. Hein, c'est vraiment « deviens », quoi. C'est dans la matière, dans l'action, c'est pas juste le mental, quoi. Et alors il rajoute « depuis toujours ». C'est le côté aussi très spirituel qu'avait Jung, que j'aime beaucoup, qui parle de cette énergie, hein, moi j'appelle ça, d'être qu'on a, selon moi, dès qu'on arrive sur cette planète, hein, que certains peuvent appeler aussi le mandat d'incarnation, ou voilà, ce pourquoi on est là, nous, en deux mots, le pourquoi. Et de découvrir ça le plus tôt possible, c'est un super cadeau. Parce que en fait, plus tu découvres tôt ce pourquoi tu es là, plus tu vas pouvoir donner au monde ce pourquoi tu es là, et donc tu vas contribuer en fait à l'évolution, pas seulement de ton petit individu, mais du collectif. Et moi, je crois que l'existence, hein, elle est un titre individuel, mais elle est tellement aussi un titre collectif. Hein. On fait partie d'un grand tout sur un plan spirituel, selon moi, mais on fait aussi partie d'un grand tout sur le plan vraiment de la matière. Donc plus tu découvres ce pourquoi tu es fait, c'est pour ça que moi je suis tellement contente d'avoir découvert qu'en fait, c'était pas faite pour faire du marketing, mais plus pour faire de la psychologie et de la transmission, et ben plus tu vas œuvrer dans le bon sens.
Mmh. Et alors là, en revenant à des choses un peu plus concrètes, dans la matière, comment est-ce qu'on trouve qui on est et pourquoi on est fait quand on a 20 ans et qu'on est littéralement paumé?
Mais j'aurais encore tendance à parler de l'autre, en fait, tu vois, ouais, de la relation. Pour moi, l'autre est ce, à la fois cette zone de projection, mais aussi ce soutien et puis aussi ce miroir, en fait. Hein. Moi, par exemple, ce qui fait que j'ai compris que j'étais pas fait pour la première carrière que j'avais prise, c'est vraiment la rencontre, hein, la rencontre avec cette première thérapeute, mais aussi les rencontres avec des amis qui venaient me raconter leurs problèmes. Et puis après, quand j'ai découvert d'autres professionnels, etc., en fait, c'est ça qui m'a petit à petit éclairé sur qui j'étais vraiment moi, en fait.
Donc c'est des rencontres qu'il faut apprendre à voir aussi et à ne pas fermer les yeux sur ce qu'elles peuvent nous renvoyer.
Oui, absolument. Mais je trouve qu'à l'heure d'Internet aujourd'hui, les jeunes, la génération des 20 ans, il y a cet apport-là quand même, d'avoir quand même une source de modèles, d'identification, d'inspiration qu'on n'avait pas forcément à notre époque.
Mais on peut aussi se perdre et dans trop de modèles et trop d'inspiration.
C'est sûr. C'est là où, à nouveau... la guidance des sages, entre guillemets, qui peuvent être juste parfois juste une personne qui a 10 ans de plus que nous, hein, sans être sage, mais qui a quand même peut-être quelques années de plus, quelques gadins de plus, et qui peut nous éclairer, nous encourager, nous dire mais allez, tu peux y arriver. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de faire la fac de psycho, j'ai eu des adultes qui m'ont plutôt freinée, comme mon père, par exemple, qui ne comprenait pas pourquoi changer de carrière alors que tout allait bien pour moi. Mais j'en ai eu aussi qui m'ont dit « Ok, ce que tu entreprends, c'est un peu étonnant. Bon, tu vas dans un milieu quand même qui n'est pas du tout pareil, moins bien payé, il n'y a pas de boulot. Hein. Mais vas-y, fonce, quoi. Hein, » Il y a eu comme ça une ou deux paroles qui m'ont soutenue.
Quel conseil plus général tu aimerais partager aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent, Gwenaëlle ?
De développer la curiosité, vraiment. Mais comme tu dis, pas la curiosité à tout azimut qui peut juste parfois générer l'angoisse, quoi. Mais de la curiosité incarnée, dans le sens incarné, c'est-à-dire avec des personnes. C'est-à-dire... si on lit un bouquin ou qu'on entend quelque chose sur un métier, par exemple, qu'on ne connaissait pas, eh bien, ça va être ô combien précieux à un moment d'aller rencontrer vraiment quelqu'un qui, par exemple, fait ce métier. Hein, d'aller dans la rencontre,
l'action.
Vraiment. L'action, à nouveau. L'action. Mais avant ça, il faut effectivement la curiosité. C'est pour ça que moi, je suis une grande lectrice depuis toujours. Hein, je l'ai dit au début. Moi, les livres, vraiment, m'ont permis de survivre de ma solitude. Et là, c'est alors aujourd'hui, il y a plus des choses numériques, mais quelque part, c'est pareil. C'est des sources d'ouverture au monde, en fait.
Tu lis encore beaucoup ?
Énormément. C'est moi, ma libraire de ma ville, c'est mon premier petit copère, quoi.
C'est quelque chose qu'on perd ou pas, la lecture ?
Moi, en tout cas, ça va pas forcément en augmentant parce que j'ai peut-être moins de temps maintenant qu'à certaines époques de ma vie. Mais pour moi, c'est un compagnon depuis toujours et j'ai l'impression pour toujours. Donc, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour moi, c'est un de mes meilleurs amis.
Est-ce que ça aide à être libre ? La liberté, c'est quoi pour toi ?
Est-ce que ça aide à être libre ? Le livre, ouais, déjà ?
La littérature, la lecture.
Ah mais tellement moi j'ai lu beaucoup donc de biographies, des témoignages que j'avais besoin d'être inspirée par des gens. La poésie me parle moins, mais par exemple la poésie c'est une porte aussi sur le monde. Hein.
C'est la journée mondiale de la poésie aujourd'hui.
C'est vrai, voilà. Tu vois, c'est
le printemps.
Et ça aide à être libre dans le sens que moi par exemple ça m'a ouvert, tu vois, des fenêtres sur le monde quand j'étais enfant et ado, où pour moi le monde était fermé, parce que j'étais un peu enfermée dans ma cellule familiale, qui était assez froide et vide, quoi. Et donc c'était des fenêtres sur le monde, de lire à l'époque. Et puis aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, j'ai évidemment une grande liberté, ça m'aide toujours à ouvrir des portes sur le monde. Je découvre encore à chaque fois des choses que je connaissais pas tout le temps. C'est incroyable.
Écoute, dernière petite question de fin pour terminer cet entretien, Gwenaëlle. Le bonheur, c'est quoi pour toi ?
Le bonheur, je crois que c'est cet instant où on est là où on doit être. Où on est devenu, en sachant que c'est jamais, on n'est jamais arrivé. Hein. Mais à un moment, on sent qu'on est juste là à l'endroit où on doit être. Et moi, par exemple, les moments de bonheur, beaucoup sont liés à l'accompagnement des gens. Hein, pas que, hein, parce que j'ai aussi des moments de bonheur avec mes enfants, avec mon compagnon.
Avec la lecture.
Avec la lecture, avec les états élargis de conscience, avec plein de choses. Mais moi, je pense que par rapport à ce pourquoi je suis là, pourquoi je me suis incarnée dans cette vie, c'est beaucoup lié quand même à l'accompagnement. Des instants où, bah justement, l'instant est pur instant, où le flow est là, hein, le flux de cette fluidité de pourquoi je suis là et où le temps se suspend et je suis juste bien.
Donc le bonheur se trouve dans l'alignement, finalement.
Oui, dans l'alignement à nouveau avec, avec qui on est depuis toujours, comme dirait Jung.
Magnifique, et on termine encore sur Jung. Écoute, merci beaucoup Gwenaëlle pour tous ces précieux partages.
Merci beaucoup Victoria.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.